Bon, a expliqué qu'il y a donc le déconstituant de phase, c'est la décision d'initiative préconstituante et la décision attributive du pouvoir constituant. Je vais développer ces deux procédés et appliquer la thèse de professeur Bo à la transition constitutionnelle thaïlandaise. Dans l'histoire constitutionnelle de la Thaïlande, depuis le 24 juin 1932, où la monarchie absolue a été abolie et remplacée par la monarchie constitutionnelle, nous avons eu 19 constitutions et la troisième sera promulguée dans quelques mois. Parmi les nombreuses constitutions, on peut distinguer deux types de la transition constitutionnelle. C'est la révision légale et le coup d'état militaire. Ça c'est le coup d'état en Thaïlande sous la monarchie constitutionnelle. Ce que je présente dans le tableau montre que le coup d'état a été utilisé plusieurs fois. Alors il y a trois fois l'utilisation du procédé de la révision légale. On peut dire que le coup d'état est considéré comme le moyen ordinaire pour changer la constitution en Thaïlande. En considérant la déclaration de junte militaire, on retrouve trois arguments classiques du coup d'état. Tout d'abord, c'est la protection de la monarchie. Ensuite, c'est la lutte contre la corruption du gouvernement. Et enfin, c'est pour la sécurité et l'ordre public. Après chaque coup d'état, le roi nomme le chef de la junte par un acte royal. Mais pourquoi faut-il donc un acte royal alors que le coup d'état est déjà en fait accompli? Si on croit que la définition du coup d'état, c'est la prise de pouvoir immédiatement par le moyen violence, mais pourquoi faut-il ensuite demander l'acte royal par le roi? Lors du coup d'état du 8 novembre 1947, un des régents a nommé le maréchal pour être le chef de la junte sans contre-signature. Et le lendemain, il a promulgué la constitution intérimaire du 9 novembre 1947. Le coup d'état du 16 septembre 1957, le roi Bhumibol a nommé le maréchal Seri comme chef de la junte militaire sans contre-signature. Le coup d'état de 1971-1977, c'est toujours le roi qui donne une audience royale à la junte militaire. La tentative du coup du 1er avril 1981 est un échec parce que le roi n'accepte pas de donner une audience royale à la junte militaire. Au contraire, le coup d'état 1991, le roi a nommé encore le chef de la junte sans contre-signature. Et les deux derniers coups, c'est le roi Bhumibol a nommé le chef de la junte et c'est le chef de la junte qui a contre-signé l'acte royal. Ce paradoxe peut avoir deux significations. Soit le roi nomme le chef de la junte et le chef de la junte prend la responsabilité de cet acte. Soit le chef de la junte se nomme lui-même et demande au roi de signer pour montrer son approbation. Pourquoi faut-il que tous les coups d'État en Thaïlande soient approuvés publiquement par le roi pour être considérés comme achevés? En vérifiant les coups d'État en Thaïlande, on trouve les faits suivants qui sont pratiqués et répétés par les auteurs de coups d'État. Tout d'abord, les auteurs de coups d'État déclarent la prise de pouvoir et le renversement du gouvernement. Et puis, l'abolition de la Constitution et puis déclarer l'état de siège. Et ensuite, c'est l'audience devant le roi. Et le roi nomme le chef de la junte et le roi signe la constitution intérimaire. On peut conclure que parmi ces pratiques répétées, les trois dernières font intervenir le roi. C'est-à-dire que c'est la signature du roi pour nommer le chef de la junte, l'audience devant le roi et la signature du roi pour promulguer la constitution intérimaire. Donc, il s'agirait de coutume constitutionnelle. Si on peut dire que c'est une pratique répétée plusieurs fois aujourd'hui, peut-être on peut considérer que c'est comme le coutume constitutionnel. Si le coup n'est pas encore accepté par le roi, il n'est pas accompli. La technique du coup d'État en Thaïlande s'est développée par étapes. Le coup d'État du 8 novembre 1947 abolit la constitution de 1946 immédiatement et proclame la constitution intérimaire le lendemain. Le coup d'État 1951 abolit la constitution et réinstaure une ancienne constitution. Le coup d'État 1957 n'abolit pas la constitution. Le coup d'État 1958 abolit la constitution mais ne proclame pas la constitution intérimaire immédiatement. C'est la junte militaire gouverne avec le décret militaire, sans constitution. Cette situation continue dans certaines durées et puis la constitution intérimaire sera promulguée. Et les coups d'État ensuite, oui, on fait comme le coup d'État 1958, ça veut dire que c'est abolition de la constitution et gouvernement sans la constitution et puis c'est la constitution intérimaire. Lorsque la constitution est abolie et une nouvelle constitution n'est pas encore venue, ce sera la situation de sans constitution. Donc il faut avoir une petite constitution selon le mot de professeur Marcel Perrault pour organiser la période transitoire. Professeur Emmanuel Cartier examine le rôle de petite constitution dans une type dimension temporelle. Par rapport au passé, elle participe à la réception d'une partie de ses composants dans un autre nouveau. Par rapport au présent, elle organise à titre provisoire les rapports entre les pouvoirs publics. Par rapport au futur, les petites constitutions participent à la détermination de titulaires du pouvoir constituant et définit les modalités de production de la constitution définitive. En Thaïlande, plus spécifiquement, la constitution intérimaire ne joue pas seulement le rôle de l'attribution du pouvoir constituant, mais également elle légitime et constitutionnalise le pouvoir de la chambre militaire et aussi autorise le pouvoir exceptionnel au chef de la junte. La constitution intérimaire transforme la force en le pouvoir constitutionnel ou juridique. Auparavant, la junte militaire ordonne le décret fondant sur la force pio. Mais après la promulgation de la constitution intérimaire, tous les actes fondent sur la base constitutionnelle. En Thaïlande, la constitution intérimaire constitue l'assemblée législative et le gouvernement avec le régime parlementaire. Mais le chef de l'État, le chef de la junte nomme, avec la signature du roi toujours, nomme le membre de l'assemblée législative et ensuite c'est l'assemblée législative nomme le premier ministre et premier ministre c'est le chef de la junte. Ça veut dire que c'est pas le régime parlementaire, c'est pas la séparation de pouvoir. Ça veut dire que tous les organes politiques, toutes les institutions politiques dans la constitution intérimaire, ça vient de la chef de la junte militaire et le roi. Cette norme constitutionnelle crée une illusion dans laquelle la junte militaire est disparue, mais en fait c'est pas vrai. Et c'est le gouvernement constitutionnel qui prend le pouvoir. Et les lois sont adoptées par l'assemblée législative, non pas la chambre. Mais en réalité, cette assemblée législative nommée totalement par la junte et l'assemblée joue le rôle comme la rubber stamp. En plus, la constitution intérimaire attribue le pouvoir exceptionnel au chef de la junte pour lutter contre la force de contre-coup d'État. Le pouvoir exceptionnel a été reconnu première fois dans la constitution intérimaire de 1959. C'est l'article 17, permet au premier ministre à prendre tous les actes ou à prendre n'importe quelle action pour protéger la sécurité publique. Et tous les actes pris par cet article sont légaux. L'auteur de cet article a expliqué que son idée est inspirée par l'article 16 de la Constitution de 5e République de 1958. Mais en réalité, le pouvoir exceptionnel du président de la République en France est encadré, bien sûr, pas parfaitement, mais il y a quand même la limitation. Et c'est le président de la République qui prend les actes de l'article 16, c'est le président élu. Mais en Thaïlande, le pouvoir exceptionnel est attribué au premier ministre dans le régime du coup d'État ou le chef de la junte militaire. Et le pouvoir de l'article 17 en Thaïlande, c'est le pouvoir illimité et incontrôlable. Ce pouvoir exceptionnel du premier ministre est accessé plusieurs fois pour l'exécution arbitraire extrajudiciaire, pour la condamnation à prison et la confiscation des biens. Cette disposition est reprise encore dans la Constitution intérimaire aujourd'hui, 2014. C'est l'article 44. L'article 44 de la Constitution intérimaire de 2014 attribue le pouvoir exceptionnel au chef de la junte. Il dit que tous les actes pris par l'article 44 sont constitutionnels légaux. Les auteurs de actes sont irresponsables et impunis. Tous les actes pris par l'article 44 ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel. Le juge est incompétent à connaître de ces actes. L'article 44 de la Constitution intérimaire, toujours vivant après la nouvelle Constitution promulguée. Ça veut dire que même si la constitution définitive sera promulguée, mais l'article 44 de la Constitution intérimaire est toujours en vigueur. En plus, il dit que tous actes pris par l'article 44 sont toujours conformes avec la nouvelle Constitution. Ça veut dire que c'est validé, constitutionnalisé par avant. Jusqu'à présent, il y a une centaine d'offres du chef de la junte qui a pris par l'article 44. Il concerne tous les domaines dans la vie publique. Par exemple, nomination et dégradation des fonctionnaires. C'est comme une purge après le coup. Des chances, mesures contre le crime, mesures contre le motobike illégal, mesures pour la corruption, et changement le taux de l'impôt, démissionner le maire, etc., etc. On peut remarquer que ce sont dans la vie administrative et normalement c'est appartient de pouvoir des ministres ou des agents administratifs. Mais pourquoi le chef de la junte prend ces actes par l'article 44? Parce que le chef de la junte a décidé d'exercer le pouvoir exceptionnel de l'article 44 parce qu'il veut décrocher tout le contrôle juridictionnel et puisqu'il est irresponsable. Aujourd'hui, on peut dire que général Prayut Chan-o-cha, il est chef de la junte militaire. Il est aussi le premier ministre. Donc, général Prayut Chan-o-cha a deux corps politiques. Premier corps, c'est le premier ministre. Son pouvoir est limité par la constitution intérimaire. Et deuxième corps, il est le chef de la junte. Son pouvoir est illimité avec l'article 44. Il est en dehors de la Constitution, au-dessus de la Constitution, il est souverain. Même si la nouvelle Constitution sera promulguée bientôt, il a toujours ce pouvoir exceptionnel. C'est-à-dire qu'il peut violer, suspendre, annuler, même abolir la Constitution. Voilà, c'est la phase de constitution. Et puis c'est la phase de reconstitution. On peut distinguer la rédaction de la Constitution en deux mots, c'est démocratique et non démocratique. Pour le mot démocratique, l'auteur de la Constitution doit être lié avec le peuple, par exemple le peuple élit l'Assemblée constituante. Et quant au mot non démocratique, la Constitution est rédigée par les expertises, les technocrates Et le peuple n'a pas le droit à élire une assemblée constituante. Le peuple n'a pas le droit à décider par le référendum. Et le peuple n'a pas le droit à participer dans la procédure constituante. Donc, il s'agit de la procédure constituante après le coup d'État. Toutefois, le champ militaire organise un comité ou une assemblée pour prendre en charge la rédaction de la Constitution pour deux raisons. Premièrement, c'est pour masquer la domination de la champ. Le chef de la champ militaire peut dire que ce n'est pas nous qui rédige la Constitution. C'est l'expertise, c'est le juste. C'est le juriste constitutionnaliste, c'est le juriste publiciste qui rédige la Constitution. Ce n'est pas le chef de la Chambre. Et deuxièmement, c'est la tactique de gagner du temps de la procédure. Si la rédaction n'est pas encore achevée, la Chambre est toujours dans le pouvoir. Comme aujourd'hui, c'est après ça, il y a 2 ans, le coup d'État 2014, mais aujourd'hui, La nouvelle constitution est toujours dans le projet, même si on a passé le référendum, mais c'est pas encore appliqué. Ça veut dire que c'est la tactique de gagner du temps. On peut prolonger le temps de transition. La dernière chose que je dis, c'est la sanction de la constitution. C'est le problème sur le pouvoir constituant. Toutes les constitutions de la Thaïlande sont signées par le roi. La signature du roi ne signifie pas toujours que le pouvoir constituant appartient au roi. Au contraire, il faut considérer le pouvoir de décision du roi. Si le roi peut refuser à sanctionner la constitution et son veto est absolu, oui, peut-être on peut dire que le roi est le pouvoir constituant. Il y a des constitutions en Thaïlande qui admettent explicitement que le roi a le pouvoir de veto constitutionnel absolu. C'est la constitution 1997 et cette constitution actuelle. La doctrine royaliste, comme professeur Bawon Sak Uwanno, il est juriste francophone, je crois qu'il est comme nous ici. Il a dirigé la thèse sur la convention de la constitution en Grande-Bretagne, sous la direction de professeur Michel Tropper. Et il travaille avec la chambre militaire toujours. Il a proposé que la Thaïlande est différente que les autres pays démocratiques. Ça veut dire qu'en Thaïlande, le pouvoir constituant appartient au roi. Parce que le roi signe toutes les constitutions en Thaïlande. Si on confirme que le roi est le pouvoir constituant dans toutes les constitutions en Thaïlande, il entraîne les deux questions paradoxes. Premièrement, si le roi doit signer obligatoirement sans le pouvoir discrétionnaire, autrement dit, c'est la promulgation formelle dans la forme royaume de l'État. On ne peut pas confirmer que le roi est le pouvoir constituant, car il ne peut pas refuser, rejeter, être silence, mais il faut obligatoirement signer. Au contraire, si on croit que le roi a le pouvoir de veto, ou le texte constitutionnel lui permet explicitement à prendre le veto, il y aura la deuxième question. C'est le principe démocratique. Le principe démocratique exige que le peuple qui tient le pouvoir constituant. Le peuple exerce directement par le référendum ou exerce par son représentation. Si le roi peut prendre le veto constitutionnel et sa décision est le dernier mot, il signifie que le roi est le pouvoir constituant. Ça veut dire qu'une seule personne illégitime démocratique, comme le roi, peut bloquer la décision du peuple. Si le roi octroie la constitution, il devient le souverain. Il est au-dessous du peuple, il est en dehors de la constitution. Si on admet le pouvoir constituant du roi, la Thaïlande n'est pas démocratique, ni la monarchie constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vient de décider la semaine dernière, c'est l'arrêt numéro 7 l'année 2016, la semaine dernière. elle a décidé que la constitution sera en vigueur après que le roi signe. Sans la signature du roi, ce texte n'est que le projet. Elle conclut précisément que cette norme est la coutume constitutionnelle dans le régime démocratique, avec le roi comme chef d'État. Vous pouvez remarquer dans la constitution thaïlandaise, on ne dit pas la monarchie constitutionnelle. On dit que la Thaïlande est le pays de régime démocratique avec le roi comme chef de l'État. Il n'existe pas le mot monarchie constitutionnelle, monarchie parlementaire dans le texte constitutionnel. Il n'y a que le mot le régime démocratique avec le roi comme chef d'État. À cet égard, si le roi ne signe pas, alors la constitution n'a pas l'effet juridique. Même si le peuple approuve la constitution, soit direct par le référendum, soit indirect par l'assemblée constituante élue. La constitution sans la signature du roi est toujours comme le projet. Oui, Robespierre a raison, il a dit le 21 septembre 1789 que celui qui dit qu'un homme a le droit de s'opposer à la loi dit que la volonté d'un seul est au-dessous de la volonté de tout. Il dit que la nation n'est rien et qu'un seul homme est tout. Le pouvoir exécutif a le droit de contrarier et d'enchaîner les volontés de la nation. Il a créé un monstre inconcevable en morale et en politique. Et ce monstre n'est autre chose que le veto royal. La dernière partie, je vais parler sur le contenu d'une nouvelle constitution. Je vais passer rapidement. Cette nouvelle constitution, en fait, c'est la constitutionnalisation des objectifs du coup d'État. Ça veut dire que l'objectif du coup d'État, les élites traditionnelles, les armées, même les juges ne veulent pas avoir le gouvernement fort, le gouvernement fort. Et donc c'est pourquoi cette nouvelle constitution crée le système de le gouvernement coalition avec le premier ministre non élu sous l'égide de la bureaucratie et du militaire. Ça veut dire qu'on revient à la moderne du gouvernement des années 80. Ça veut dire que, oui, bien sûr, il y a l'élection, mais quand on va former le gouvernement, c'est toujours la bureaucratie, les champs de bureaucratie, le fonctionnaire ou même le soldat, le chef de l'armée, qui devient le premier ministre. Et le gouvernement ne peut pas appliquer le programme politique. Ça veut dire que toutes les choses dépend de la bureaucratie. Et il y a aussi le texte qui attribue la faiblesse de l'organe élu et renforce le rôle des organes non élus, comme on crée le Sénat nommé totalement. Et on donne le pouvoir très très fort au Sénat. Par exemple, comme c'est le Sénat qui peut nommer les organes constitutionnels indépendants comme autorités administratives indépendantes comme le Comité national d'élection, le Comité indépendant contre la corruption, par exemple, ou même la Cour constitutionnelle. Ensuite, je parle du rôle du juge constitutionnel. Depuis 2006, la Cour constitutionnelle est l'un des facteurs de la crise politique en Thaïlande. La Cour constitutionnelle a pris de nombreuses décisions à l'encontre des partis politiques soutenant l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra et Yingluck Shinawatra. Elle a également empêché des procédures, bloqué des procédures de révision constitutionnelle. En 2006, elle annule des élections générales au niveau national, tout le pays. 2007, c'est la dissolution du parti du gouvernement. et l'inéligibilité des membres du comité de parti. 2008, elle prononce la démission d'office du premier ministre, dissolution du parti encore, le parti de gouvernement. 2012, la Cour constitutionnelle a bloqué la révision constitutionnelle à deux fois. Alors que dans le texte, la constitutionnelle n'a pas la compétence de contrôle de constitutionnalité de la révision constitutionnelle. Première fois, la Cour constitutionnelle a bloqué la nomination. Le Parlement veut réviser la Constitution pour créer une assemblée constituante élue. Et puis, c'est la Cour constitutionnelle a bloqué. Deuxième fois, la Cour constitutionnelle a invalidé une révision visant à faire du Sénat une chambre élue. Avec un argument très, très bizarre. La Cour a dit que si on change le mode, le système de Sénat comme le Sénat élu totalement, ça veut dire que c'est une tentative d'abolir la démocratie en Thaïlande. Mais le Sénat nommé, c'est conforme de la démocratie en Thaïlande. Mais si le Sénat élu, c'est contraire de la démocratie en Thaïlande. 2013, la Cour constitutionnelle démissionne Premier ministre Yingluck Chinawat. 2014, la Cour constitutionnelle a annulé des élections générales dans tout le pays encore une fois. Et puis c'est le coup d'état militaire. À mon avis, je pense que le rôle du juge constitutionnel c'est comme quelqu'un qui ouvre la voie, qui crée la crise, le conflit politique, la crise constitutionnelle. Et puis c'est l'armée qui réalise le coup d'état. Mais le projet d'une nouvelle constitution élargit de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle. Tout d'abord, c'est le monopole de l'interprétation 8 constitutionnelle. Deuxièmement, c'est le contrôle de la révision constitutionnelle. Il y a un article de la Constitution qui prévoit que lorsqu'il n'existe pas le texte de la disposition constitutionnelle, on peut appliquer par la convention de la Constitution. Mais ce n'est pas la convention de la Constitution dans le régime démocratique, mais il dit que la convention de la Constitution dans le régime démocratique avec le roi comme chef de l'État. Ce n'est pas la monarchie constitutionnelle, en fait. C'est le régime démocratique avec le roi comme chef d'État. lorsqu'il y a le conflit politique, les gens veulent chercher le vide constitutionnel. Par exemple, ils veulent la manifestation, le groupe de manifestation veut démissionner le premier ministre élu et puis il demande au roi pour que nommer nouveau premier ministre. En fait, le texte constitutionnel n'autorise pas, mais le groupe de manifestation dit toujours que c'est la convention de la constitution en Thaïlande. Ça veut dire que le roi peut diriger le conflit politique, même si le texte ne dit pas. Et dans la nouvelle constitution prévoit que lorsqu'il y a la crise comme celui-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le vide constitutionnel, le vide de texte. C'est la Cour constitutionnelle qui décide. C'est la Cour constitutionnelle qui interprète, qui dit que qu'est-ce que la convention de la Constitution dans le régime démocratique avec le roi comme chef d'État. Et maintenant, est-ce qu'il y a le vide constitutionnel ou non? Et puis, sa décision est absolue et définitive. Ça veut dire que comme Kashmir a dit que c'est lui qui décide l'état d'exception, c'est le souverain. C'est pourquoi je dis que la Cour constitutionnelle thaïlandaise, c'est comme le juge souverain. pour que le rôle du juge constitutionnel comme juge constituant. Dans la procédure de la révision constitutionnelle, en fait, c'est. On peut dire que c'est la révision constitutionnelle impossible. La Cour constitutionnelle peut contrôler la révision constitutionnelle avant de provoquer. Ça veut dire que la révision constitutionnelle ne peut pas être née sans l'autorisation de la Cour. Cette compétence soutient le juge constitutionnel devient le juge constituant. Si la majorité veut réviser la constitution militaire, la constitution qui est dominée par le militaire, mais c'est la Cour constitutionnelle qui peut bloquer tous les fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le système bloqué, le système ferme. L'expérience historique nous enseigne que s'il y a la force politique, le peuple qui veut changer la constitution, mais on ne peut pas changer la constitution pacifiquement par la voie de révision. Ça veut dire qu'il y a il est possible qu'on peut avoir encore une fois la crise politique parce que ce système s'est bloqué, ce système s'est ferme. Donc pour conclusion, je vais passer rapidement. Voilà, c'est le rôle du juge constitutionnel en Thaïlande. Voici. Voilà. En bref, histoire de la Thaïlande que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la serre du coup d'État sous la reine du roi Khamaneuf. Il y a deux phases, des phases de régime constitutionnel et phases de régime militaire. Phase de régime constitutionnel, il y a l'élection, et puis c'est le gouvernement élu qui gouverne, et puis il y a la tentative d'organiser la crise politique. Et puis c'est le coup d'État, c'est la phase de régime militaire, le coup d'État. Le roi nommé chef de l'agent militaire abolit la constitution, renversement du gouvernement élu, la constitution intérimaire signée par le roi, la rédaction d'une nouvelle constitution, la nouvelle constitution signée par le roi. Et on revient encore. L'élection et le gouvernement élu, la crise, voilà. C'est comme la sac du coup d'État sous le règne du roi Khamaneuf. Voilà. Ce sac de coup d'État est expliqué par l'argument classique, l'argument traditionnel. Oui, c'est le cercle vicieux circle. C'est la corruption des hommes politiques. C'est la corruption du gouvernement élu. C'est le peuple thaï. Ils ont la majorité de la société thaïlandaise. Et le coup d'État est le mal nécessaire pour sortir de la crise. À mon avis, cet argument est illusoire. J'aimerais vous expliquer autre argument. La transition démocratique est souvent un échec parce que les élites traditionnelles ne sont pas d'accord avec le progrès démocratique. Toutes les constitutions en Thaïlande, toutes les constitutions sont dominées par les élites traditionnelles. C'est les élites qui dominent, c'est le roi, c'est les juristes élitistes qui juristes royalistes qui dominent toutes les constitutions en Thaïlande. Mais lorsque la vie politique est plus avancée, avec la constitution est dominée par les élites traditionnelles, lorsque la vie politique est plus avancée que leur estimation, les élites traditionnelles n'hésitent pas à rappeler le coup d'État pour arrêter ce bloquet. Professeur Giuseppe Vercotini a dit que la transition constitutionnelle n'est pas nécessairement démocratique. Elle peut également caractériser l'abandon d'une forme d'État démocratique en faveur d'une forme autocratique. Mais toutefois, il observe qu'une génération en faveur de l'adoption des principes issus du constitutionnalisme libéral. Mais au contraire, en Thaïlande, si les élites traditionnelles ne veulent pas adapter dans le régime démocratique, la transition constitutionnelle revient encore et ce sera répété plusieurs fois par le coup d'État. Je conclue que la Thaïlande aujourd'hui est inverse des autres pays. Il n'existe pas la transition démocratique, mais la transition constitutionnelle existe toujours et pourra revenir encore. Et la transition constitutionnelle en Thaïlande, c'est l'instrument pour les élites traditionnelles à arrêter la transition démocratique. Merci.